Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. D'abord un mot pour les enfants, en particulier Louvette que je vois ici. Donc les enfants, vous avez peut-être remarqué que dans notre communauté, le dimanche, il y a des adultes qui portent une écharpe verte. Et puis depuis quelque temps, il y a des adultes qui portent une écharpe violette. Alors dans notre communauté, un adulte qui porte l'écharpe verte, il se prépare au baptême. Et celui qui porte l'étole, l'écharpe violette, il l'a reçu par l'évêque parce que l'évêque lui a dit « À la fête de Pâques, cette année, tu vas être baptisé. » Il y a eu l'appel décisif par l'évêque. C'est l'évêque qui dit « Tel adulte, tel adulte, tel adulte, je l'appelle au baptême cette année, il va être baptisé cette année à Pâques. » Et donc, il faut faire attention, il faut être attentif dans notre communauté aux personnes qui portent une écharpe verte et une écharpe violette. Et comme ça, vous savez pourquoi ils portent ces écharpes. Alors, chaque dimanche porte le nom du premier mot de l'introïte du chant en grégorien du début de la messe. Par exemple, vous connaissez ça par cœur, dimanche prochain, c'est le dimanche de l'étaré, on est en rose d'ailleurs, parce que c'est le premier mot de l'introïte. Aujourd'hui, on dit c'est le dimanche oculi, l'œil, les yeux, parce que, eh bien, dans la tradition de l'Église, l'évêque, ce dimanche, scrute avec ses yeux, les yeux de son cœur, de son intelligence, il scrute l'âme de ceux qui vont être baptisés à Pâques et qu'il a appelés. Donc depuis les premiers temps de l'histoire de l'Église, les évêques, en ce dimanche, troisième dimanche de carême, convoquent les catéchumènes avec l'écharpe violette et puis ils scrutent dans leur cœur, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que cet adulte croit vraiment que Dieu est créateur, qu'il est Trinité, que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort pour nous sur la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour? Est-ce qu'il le croit? Il ne le croit pas. S'il ne le croit pas, il ne peut pas être baptisé. S'il le croit, il peut être baptisé. Parce qu'il a le commencement de la foi chrétienne. Est-ce que cet adulte va à la messe tous les dimanches ou pas? S'il ne va pas à la messe tous les dimanches, ce n'est pas bon signe, parce qu'après son baptême, il n'ira pas à la messe le dimanche et il ne sera pas un bon chrétien. Est-ce que ce catéchumène a changé un peu sa vie avec la grâce de Dieu? Est-ce qu'il s'efforce de chercher la sainteté, même s'il n'est pas baptisé? Si c'est oui, alors il faut l'admettre au baptême. On scrute, c'est les scrutins. Donc, dans la messe suivante, ce matin, eh bien, l'abbé de Montjoie va faire des prières pour les catéchumènes, pour préparer leur cœur, comme c'est prévu par la liturgie depuis des siècles. Alors merci de prier pour les catéchumènes avec l'écharpe verte. Ils seront baptisés l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Et puis ceux qui ont l'écharpe violette, parce qu'ils vont être baptisés à Pâques dans quelques semaines. Et puis j'invite toujours les catéchumènes qui quelquefois ont oublié, ça arrive, leur écharpe chez eux, de venir chercher une autre écharpe dans la sacristie, pour qu'on puisse bien les repérer et qu'on puisse les accompagner, les saluer, les intégrer dans la communauté de tout notre cœur. Il faut se mettre un peu à leur place. Quelquefois, les catéchumènes ont personne dans leur famille qui est chrétien, personne. Et ils arrivent au milieu des chrétiens, un peu comme un martien sur la planète Terre. Donc il faut les intégrer, les accompagner, prier pour eux. Alors merci aux enfants de prier pour les catéchumènes aux écharpes vertes et violettes. Pour les plus grands. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, en parlant de sa passion et de sa mort qui approchait, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Le prince de ce monde, vous le savez bien, c'est Satan, qui a tenté Jésus au désert. Souvenons-nous de l'évangile du premier dimanche de carême. Le diable emmène Jésus sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière Satan, car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Jésus vient jeter dehors le prince de ce monde. Il vient rappeler le primat de l'amour de Dieu le rejet de toute idolâtrie. Et Jésus annonce que lorsqu'il sera élevé de terre sur la croix, alors il attirera tous les hommes à lui afin de les inviter au salut éternel. L'Église poursuit cette mission de libération inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, je voudrais voir avec vous trois aspects du combat spirituel aujourd'hui. Premièrement, l'Église possède trois formes de prière de délivrance. Deuxièmement, il faut toujours rester humble, même après une belle victoire. Et troisièmement, luttons contre les démons muets. Premièrement, l'Église possède trois formes de prière de délivrance. Une prière pour les païens, pour les personnes non baptisées, une série de prières pour les catéchumènes et un rituel d'exorcisme pour libérer les possédés. Tout d'abord, les prières de délivrance pour les païens. Récemment, j'ai fait une découverte. Il existe un livre intitulé « Protection, délivrance, guérison » édité par l'Église et qui offre une prière spéciale pour les non-baptisés, une prière de délivrance. J'invite tous les non-baptisés qui pourraient être ici présents et qui n'ont pas fait leur entrée en catéchuménat à recevoir cette bénédiction, à venir voir un prêtre, l'abbé de Montjoie, l'abbé Gilet ou moi-même, et à recevoir cette bénédiction de l'Église pour les non-baptisés. À la prière de l'Église, le Seigneur libère très certainement cette personne païenne des influences mauvaises du démon sur elle. Par cette prière inspirée par la foi, il s'agit d'une certaine manière de dégager le terrain afin de faciliter l'accueil de la grâce de Dieu et l'accueil du don de la foi. Et cette prière est sans nul doute très utile en cette période de nouvelle évangélisation que nous vivons. Eh bien, chers frères, invitez vos amis non baptisés à demander et à recevoir cette bénédiction. Je l'ai donnée la semaine dernière à une jeune femme. Je ne serais pas étonné que dans les semaines qui viennent, elle demande le baptême. Deuxièmement, il existe aussi les prières de délivrance pour les catéchumènes. Ces prières commencent dès l'entrée en catéchuménat aux portes de l'Église, mais elles s'intensifient au moment des scrutins avant le baptême. Comme je l'expliquais aux enfants, nous vivons aujourd'hui le premier scrutin des catéchumènes qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques. En effet, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, puisque le baptême signifie la libération du péché et de son instigateur, le diable, on prononce plusieurs exorcismes sur le candidat. Tous les prêtres peuvent prononcer ces prières de délivrance et d'exorcisme qu'on appelle exorcismes mineurs. Et ces exorcismes mineurs ont pour but d'aider les catéchumènes à entrer plus avant dans la vie spirituelle, à mener les combats intérieurs qui impliquent leur conversion, à opérer les ruptures qui s'imposent pour se mettre à la suite du Seigneur. Il s'agit en effet de renoncer à Satan, à ses séductions, à ses tentations et au monde qui gît au pouvoir de Satan, c'est-à-dire à tout ce qui s'oppose à l'Évangile aujourd'hui dans notre société. Enfin, l'Église possède aussi des prières de délivrance face aux possédés. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque, un prêtre désigné par l'évêque. Il faut y procéder avec prudence en observant strictement les règles établies par l'Église. L'exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer de l'emprise démoniaque, et cela par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Eh bien, chers frères, prions le Seigneur afin que les évêques de France et du monde entier nomment davantage de prêtres exorcistes aujourd'hui dans leurs diocèses respectifs. À Lyon, actuellement, nous n'avons qu'un prêtre exorciste nommé. Il y a quelques années, il y en avait deux, et nous avons besoin de plusieurs prêtres, sans aucun doute. Alors nous pouvons prier pour cela aujourd'hui, qu'à travers notre nouvel archevêque, nous ayons davantage de prêtres exorcistes qui aient reçu cette mission. Deuxième point, il faut toujours rester humble, même après une belle victoire spirituelle. L'Évangile d'aujourd'hui nous appelle à cette vigilance. Ce que le Seigneur dit dans l'Évangile au sujet d'un possédé libéré vaut aussi mutatis mutandis pour tous les baptisés. Je me permets de modifier un tout petit peu les paroles du Seigneur, mais vous allez les reconnaître dans l'Évangile. Lorsqu'une personne a fait une très bonne confession, l'esprit immonde s'en va errant par des lieux arides cherchant le repos. Et comme il ne le trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il revient, il la trouve nettoyée et parée. Alors il s'en va prendre avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, et de toutes ses forces, il essaie de faire retomber plus gravement dans le péché cette personne sanctifiée par le pardon de Dieu. Et si les esprits immondes parviennent à faire pécher cette personne, son dernier état devient pire que le premier. Cette remarque a pour but de souligner l'importance de l'humilité dans la vie spirituelle. Il est toujours nécessaire de rester humble, dépendant de Dieu, conscient de cette dépendance absolue de Dieu. Bien entendu, nous devons nous réjouir de notre bonne confession ou de celle de notre prochain et rendre grâce au Seigneur pour son pardon et sa miséricorde. Mais il faut aussi rester humble et vigilant pour ne pas retomber plus bas qu'avant. Saint Pierre le dira à sa manière dans sa première épître, « Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Le démon ne sait pas faire tomber les personnes humbles, dépendantes de Dieu, mais ne fait qu'une bouchée des personnes orgueilleuses. Alors restons humbles et vigilants, fuyons les occasions de péché, et nous ne retomberons pas plus bas qu'avant. Troisième et dernier point, luttons contre les démons muets. Alors qu'entend-on par démon muet? Qu'est-ce que c'est qu'un démon muet? Par cette expression, nous pouvons désigner les démons qui nous empêchent de confesser nos péchés. L'Évangile nous dit « Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. » Il ne fait aucun doute que nous devons prier le Seigneur afin que les pécheurs, nous-mêmes d'abord, et surtout les grands pécheurs, soient délivrés des démons muets qui les poussent à ne pas se reconnaître pécheurs, à cacher leurs péchés, à les garder. Mais est-il raisonnable de penser que l'on puisse cacher nos péchés au Seigneur? Le Seigneur ne sonde-t-il pas les reins et les cœurs? Lorsque nous venons confesser nos péchés, nous n'apprenons rien à Dieu, rien du tout. Le livre des Proverbes proclame « Qui cache ses fautes ne réussira pas, qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. » Qui cache ses fautes ne réussira pas, qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. Alors nous prions les uns pour les autres durant ce carême, afin que nous recevions tous la grâce de confesser nos péchés au Seigneur, afin d'en obtenir le pardon. Jésus nous a prévenus, il y a des démons qui ne se chassent que par la prière et le jeûne. En conclusion, nous devons remercier le Seigneur d'avoir laissé à son Église catholique les moyens de chasser efficacement l'ennemi. Ensuite, par la grâce de Dieu, restons toujours humbles et vigilants pour ne pas tomber plus bas qu'avant notre conversion. Et enfin, prions les uns pour les autres afin de combattre les démons muets et ainsi avoir la force de confesser humblement et intégralement nos péchés afin d'en être délivrés et d'être sauvés. Alors, avec le roi David, nous pourrons chanter le début du psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Amen.